9 FM, partout en Nord-Ouest Vendée, sur le 93.10. La biodiversité samedi, le rendez-vous nature de Naz, avec le syndicat mixte de la baie de Bournaz.
Aujourd'hui samedi 1er du mois de mai, la biodiversité samedi se consacre à un totem du marais, le roseau. Totem du marais, c'est notre invité qui nous le dit. Bonjour Frédéric Signoret.
Bonjour Emmanuel Mézrette.
Le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf nous convie aujourd'hui avec vous à nous intéresser au roseau, qui il y a quelques siècles a inspiré déjà une fable et surtout un certain Jean de La Fontaine. On peut expliquer pourquoi vous avez été choisi pour ce thème. Frédéric, vous êtes éleveur à Notre-Dame-de-Mont, éleveur entre autres.
Oui, je suis éleveur de vaches maraîchines, ça c'est important, et puis naturaliste, quoi. J'observe beaucoup la nature.
Pourquoi ce sujet avec vous ?
Alors le roseau, en fait, c'est une espèce qui pour moi est ce qu'on appelle les espèces parapluies, celles qui illustrent tout le fonctionnement d'un écosystème, et lorsqu'elles sont présentes, ces espèces, tout va bien pour les autres. Par contre, lorsqu'elles commencent à disparaître, c'est qu'il y a des dysfonctionnements assez graves.
Ça va être un petit peu le thème de l'émission. La fable de La Fontaine, vous y avez forcément pensé pour introduire le sujet ?
Bah oui, forcément, quand on pense au roseau, on pense à De La Fontaine. Et puis, ça m'a intéressé parce que je pense que c'est une espèce de parabole intéressante pour notre territoire où finalement on a la mer qui est pas loin, les tempêtes qui arrivent et du coup le roseau il résiste. Il plie à chaque tempête alors que le chêne robuste et solide, un peu prétentieux, il s'écroule et il se retrouve les racines en l'air. Donc je trouve que c'est une philosophie intéressante.
Le roseau qui plie mais ne rompt pas. Alors il a ceci de particulier, on le retrouve dans le monde entier et on parle bien de cette espèce végétale avec différentes formes.
Oui, alors lui c'est Phragmites australis, là son vrai nom. Roseau c'est un terme générique qui regroupe pas mal de choses différentes selon les gens et les régions. Donc celui-ci, c'est celui qui a le plumeau, le petit plumeau qui est le plus courant qu'on voit au bord des fossés dans le marais.
Alors que nous apprend son nom scientifique ?
Alors sans doute qu'il a été, j'ai pas vérifié, mais décrit en Australie. En général c'est comme ça, le nom d'espèce qu'on donne, lorsque c'est un nom qui évoque un lieu, c'est là où il a été décrit en premier. Et du coup c'est une espèce cosmopolite qui a priori est présente aussi bien en Australie qu'en Vendée.
Et vous nous dites c'est une espèce commune, peu banale, mais un peu spectaculaire. Ce sont vos termes.
Ah, j'ai dit ça, moi. Je crois que j'ai voulu dire que c'est une espèce pas très spectaculaire et assez banale, en l'occurrence. Mais qui, cependant, est hyper importante parce que, pour moi, elle constitue un des ciments du territoire.
Vous l'appelez d'ailleurs totem du marais.
Ouais. Totem parce que ça, c'est un terme de sociologie. Ce sont les espèces ou les... ça peut être des objets, ça peut être des gens qui quelque part sont les objets derrière lesquels une population, une communauté se reconnaît. Et moi je pense que le roseau c'est quelque chose d'important pour les maraîchers. Alors c'est pas forcément un totem et encore que il me semble qu'au Perrier le maraud c'est des roseaux qui sont là pour pourquoi c'est une espèce totem, notamment.
On la retrouve sur pas mal d'espaces collectifs. C'est une espèce qui n'est pas protégée, ça vous précisez aussi, mais elle est en régression, on va en parler. C'est important de le préciser aussi, qu'elle n'est pas protégée comme la plupart des espèces qui sont en régression aujourd'hui dans le marais.
Oui, sans doute parce que ses effectifs, son abondance est encore élevée. Alors je sais pas à l'échelle mondiale si elle régresse, j'en suis pas sûr. En tout cas, à l'échelle du marais breton, je pense que tous les habitants constatent sa régression.
Et on rappelle à quoi il ressemble ce roseau qui fleurit chaque année, qui vous inspire beaucoup. Hein.
Ouais, alors il fleurit à la fin de l'été. Et donc ça c'est intéressant, c'est une graminée en fait le roseau, comme toutes les herbes qu'on a dans les prairies. Le fait qu'il décale sa floraison à cette fin d'été, c'est intéressant parce que du coup il est en décalage par rapport aux herbes de prairie. Et du coup quand on est éleveur, on sait que la valeur fourragère intéressante pour les animaux, c'est la période de floraison. Donc ça veut dire que alors que tout est complètement sec dans le marais, eh bien on a des roseaux qui sont encore bien verts et nutritifs. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il est intrigant. Bon, il pousse plutôt dans le fond ou dans le bord des fossés. Ça veut dire qu'il récupère aussi tous les nutriments qui ont ruisselé vers le fossé. Et en quelque sorte, si l'animal vient manger le roseau dans le fossé, eh bien, il fait un peu le cycle inverse des matières minérales qui, par exemple, sont arrivées sous forme de bouse de vache dans la prairie, vont glisser jusque dans le fossé. La vache, en mangeant le roseau, ramène la matière organique sur le pré. Voilà.
Un cercle vertueux un peu.
Voilà, je pense que c'est inspirant.
Inspirante, les couleurs, la musicalité aussi dont vous nous parlez.
Alors oui, ça fait partie plutôt du côté effectivement un peu sensoriel. Je pense que quand on fait de l'affût, quand on piste un peu la nature, et les chasseurs qui se cachent derrière une roselière vont bien comprendre ce que je dis. Quand on est caché dans une roselière, on se sent un peu comme dans un cocon. Effectivement, l'hiver, ça fait du bruit lorsque c'est gelé, lorsqu'il y a de la glace sur l'eau et que les roseaux se mettent à bouger avec un petit peu de vent, ça fait des sons cristallins qui sont assez émouvants pour celui qui aime ça, quoi.
On vous sent un poète et musicien, Frédéric Signoret. Le roseau, en tout cas, a aussi plusieurs fonctions. Il rend plusieurs services à la faune, à la flore, à l'homme. Et ce, à chaque saison aussi. Et l'homme en a bien conscience depuis des siècles. On en parle dans 3 minutes après une pause. êtes bien sur 9FM dans la biodiversité. Samedi, on parle du roseau, totem du marais, selon les termes de notre invité Frédéric Signoret, qui est éleveur, on le rappelle, de vaches maraîchines à Notre-Dame-de-Mont, paysan nature et, pour la petite histoire, membre de la LPO, ex-président depuis une semaine seulement.
Voilà, c'est ça. J'ai mis fin à mes fonctions de président de la LPO.
Et on vous retrouve toujours dans l'association?
Oui, toujours bénévole. Hein. On tourne pas le dos facilement ou à 30 ans de militantisme.
Alors, le roseau remplit des fonctions, nous dites-vous. Il rend des services. Alors, par exemple, en ce moment, c'est le printemps. Il attire pas mal d'espèces animales.
Ah oui. Alors, les roselières sont un habitat privilégié pour la reproduction de plein d'espèces, d'insectes et d'oiseaux, c'est ceux que j'ai en tête, mais aussi de poissons. Par exemple, le brochet peut volontiers frayer dans des roselières. Lorsque l'eau monte sur les roseaux au mois de février, là par exemple, il peut y faire ses pontes parmi d'autres herbes. Et par exemple, comme espèce symbolique, il y a le phragmite des joncs, le bien nommé. Il a le même nom de genre que le roseau. Et lui, c'est vraiment un adepte du roseau. Là, en ce moment, là, on les entend chanter. Ils sont arrivés depuis 3 semaines, 1 mois. Et quand on se balade à vélo dans le marais et qu'on s'arrête près d'une roselière et qu'on entend un chant assez croustillant là, avec des rebondissements, bon, c'est inimitable hein, comme chant, ben, c'est souvent le phragmite des joncs.
On va faire attention à ça, on va réécouter. Autre fonction protectrice dans le marais pour maintenir par exemple les berges.
Ouais, ça je pense que c'est sa fonction la plus connue par les habitants du marais. On voit que lorsque la végétation disparaît des bords de fossés, ben, les berges s'effondrent et voilà, les routes ou les maisons, les champs sont menacés. Donc voilà, il a notamment cette fonction de stabilisation des berges. Oui.
Et vous vouliez aussi insister sur le rôle que lui attribue l'homme, tout simplement depuis des siècles et pendant des siècles, hein, il a été utilisé par l'homme pour beaucoup de fonctionnalités.
Ouais, alors moi j'en connais pas beaucoup, hein, mais si vous allez à l'écomusée du Davio, qui est un endroit très important pour habiter le marais breton, pour comprendre dans quel environnement on vit, et ben vous verrez notamment des toitures, des espèces de petites barrières pour protéger les murs qui étaient enduits de terre, des tempêtes, voilà notamment. Vous le verrez utilisé en litière pour des animaux. On fabriquait aussi des objets, des petits hochets pour les enfants, ou alors également des formes d'oiseaux. C'était pour imiter les oiseaux, pour les capturer ou pour les chasser. Voilà, et j'en passe et des meilleurs. Je pense que le roseau est par exemple utilisé aussi en construction en terre. On le mélange pour structurer des murs en terre crue. Les bourrines sont notamment faites comme ça. Et puis toujours bah, cette fonction nourricière, c'est-à-dire que ça produit tellement de quantité de feuilles vertes à des périodes où c'est la sécheresse que je suis certain qu'il était utilisé comme fourrage dès qu'on a commencé à faire de l'élevage dans le marais, quoi.
Et on pense aussi au roseau déco aujourd'hui. Alors, je découvre avec vous aussi sa grande saisonnalité. On a évoqué le printemps, mais l'été, l'automne, les roselières sont bien utiles à la faune, mais aussi à la flore environnante.
Oui, alors ça c'est quelque chose que j'ai observé récemment, puisqu'on essaye de faire de l'élevage au GAEC, la barge, en utilisant le moins de pétrole possible. Et une des solutions pour ça, c'est d'essayer de garder de l'herbe sur pied, attractive et nourrissante pour les animaux, tard dans l'année. Et en fait, j'ai remarqué que derrière les roselières, à l'abri du vent, on a une dizaine de mètres où la végétation reste verte. Donc c'est la bordure du fossé, mais c'est aussi le côté brise-vent, un petit peu comme dans le bocage. Et du coup, voilà, on réfléchit à ça, et c'est une nouvelle fonction. Alors sans doute, il y en a qui l'ont observé depuis longtemps, mais très concrètement, ce qu'on fait au GAEC, nous, c'est qu'on maintenant, quand on a des roselières et qu'on veut faire pâturer, eh bien on met la clôture au printemps à 10-15 mètres de la roselière, de façon à laisser toute cette nourriture qui sera encore appétante, disponible à l'automne pour les vaches.
On va en parler d'ailleurs, hein, des vaches qui sont friandes, notamment je crois hein, du roseau. S'il protège ce roseau, il a aussi besoin de protection, parce qu'en fait il est pas mal agressé, il y a un panel hein, d'agresseurs, le climat, l'homme, l'animal.
Oui, alors souvent lorsqu'on déplore la disparition des roseaux, ce qui est le cas je dirais à peu près de tous les habitants du marais, on pense aux espèces exotiques, aux écrevisses, aux rats musqués, aux ragondins, qui sont évidemment des déprédateurs du roseau. Mais ce que je constate, et là où je pense que c'est important de partager ce constat, c'est que du ragondin, de l'écrevisse et du rat musqué, il y en a partout. Or, le roseau n'a pas partout disparu. Donc il y a d'autres phénomènes qui favorisent la disparition du roseau, et notamment, moi je pense, l'agrandissement de nos troupeaux pendant le dernier siècle, et la perte de main-d'œuvre liée à ces troupeaux, si bien qu'on les surveille moins, et aussi les modalités de pâturage, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait moins de main-d'œuvre, je pense qu'on laisse plus facilement les animaux sur des endroits en permanence de pâturage, et on fait moins de mouvements avec les animaux. Et en fait, j'ai constaté que ce qui fait disparaître le roseau, c'est la succession de plusieurs séries de pâturages au printemps, ça pendant plusieurs années. Moi, j'ai observé sur ma ferme, sur ma propre ferme, un endroit où j'ai vu que mes prédécesseurs avaient protégé les roseaux par des clôtures. Mon prédécesseur avait négligé ces protections et je me suis aperçu que d'année en année, la rosulaire s'était rétrécie jusqu'à pratiquement disparaître, parce qu'en fait, cette espèce qui a besoin de faire un cycle long jusqu'à l'automne, si on la ratiboise régulièrement au printemps, que ce soit par le broutage ou la fauche, eh bien, elle finit par disparaître parce qu'on l'épuise, tout simplement. On ne lui laisse pas le temps de faire des réserves pour remplir de sucre ses racines qu'on appelle des rhizomes. Et voilà, c'est comme un arbre. En fait, si un arbuste qui pousse dans une prairie et que vous le faites brouter ou que vous le fauchez plusieurs fois par an, il va finir par s'épuiser, et c'est pour ça que vous n'avez pas d'arbre dans les prairies.
On va reparler du rôle effectivement des éleveurs et puis aussi de la possibilité d'évoluer dans les pratiques. Vous vouliez aussi évoquer le climat quand même. L'évolution du climat peut expliquer la régression de roseaux dans certaines régions?
Alors, j'ai pas vraiment pensé à ça. En revanche, je pense qu'il fait partie des solutions contre le réchauffement climatique. C'est plutôt dans ce sens-là que je l'avais imaginé. Et je pensais notamment au réchauffement et auquel il faut qu'on se prépare. Et le fait que, justement, lui, il apporte des solutions pour nourrir des animaux, notamment en période de sécheresse. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il fait partie des solutions.
Il résiste à pas mal d'agressions. Tout de même, les inondations, la sécheresse, ça peut altérer évidemment son processus de vie.
Oui, le roseau, c'est une espèce dont l'optimum écologique, c'est 1 mètre d'eau en hiver et une période d'assec longue. Et je pense que cette période d'assec, elle est d'autant plus importante aujourd'hui que nous avons beaucoup d'agressions dans le milieu aquatique par les écrevisses et les rats musqués, notamment les ragondins. Donc du coup, plus la période d'assec est longue, moi je l'estime un minimum nécessaire de 4 à 6 mois, plus on a la chance de revoir réapparaître le roseau. Voilà, parce qu'on élimine en fait une partie des agressions. Et ça, c'est une de nos responsabilités sur laquelle on peut agir, c'est-à-dire ne pas vouloir re-remplir systématiquement les fossés en été. C'est normal qu'ils s'assèchent, c'est naturel, c'est comme ça que fonctionnent les marais littoro-atlantiques depuis des siècles. Et nous, qui n'aimons pas les choses qui changent, on aime bien qu'il y ait de l'eau dans les fossés, qu'elle ne déborde pas dans les prés et que les fossés restent en eau. Or, c'est pas comme ça que fonctionne une zone humide. Une zone humide, ça déborde l'hiver et ça s'assèche l'été, et c'est ça qui convient au roseau.
Et il a trouvé le roseau dans les marais littoro-atlantiques, ce terrain, ce climat favorable malgré tout. Et c'est un grand résistant, hein. Il a beaucoup, beaucoup de fonctions de résistance.
Oui, malgré tout ça, il est quand même capable. Bon, on en voit encore beaucoup, quoi, de roseaux dans le marais malgré toutes les dégradations qu'il y a. Donc là on est un peu, je dirais, mis à l'épreuve, hein. Si on n'est pas capable de cohabiter avec une espèce aussi résiliente, c'est que notre force de destruction a dépassé tout ce que je pouvais imaginer.
Bon, il y a quand même des solutions, il y en a toujours, hein, et vous avez justement pas mal de propositions, vous n'êtes pas le seul, hein, pour vos homologues, les éleveurs par exemple, aussi responsables de leur environnement et peut-être responsabilisés.
Vous rêvez d'une parenthèse de gourmandise et de bien-être? Découvrez la formule détente et saveur Valdis Resort. Pour seulement 29€ par personne, formule déjeuner au restaurant Le Bois Cendré avec entrée, plat au choix selon menu du jour et accès au spa marin de la Thalasso tout l'après-midi. Profitez aussi d'une remise exceptionnelle de 20% sur une sélection de soins. Valdis Resort, 16 avenue des Pays de Mont à Saint-Jean-de-Mont. Réservation au 02 51 59 15 15. 02 51 59 15 15.
Voir conditions sur place.
Une vague de bonne humeur vous emporte au Vendée Glisse Event. Les 14 et 15 mai à Saint-Jean-de-Mont, les meilleurs mondiaux du paddle s'affronteront lors d'une course unique. En famille, découvrez la voile radiocommandée, les premiers secours ou la préservation de l'eau avec Water Family. Profitez aussi des initiations au sport de glisse et dès 12 ans, participez à la course Swim Paddle and Run. Et ne manquez pas le spectaculaire Grand Prix Wingfoil devant la plage des oiseaux. Vendéglis Event, 14 et 15 mai à Saint-Jean-de-Mont. Info, vendeglisevent.fr.
Durant trois semaines, le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie fête la sardine. Au programme, visites guidées, ateliers culinaires, expositions, soirées dégustation, projections, conférences, ateliers créatifs et bien d'autres animations pour toute la famille. Et le 7 mai, rendez-vous au port de pêche de Saint-Gilles pour l'arrivée de la sardine de printemps. Le printemps de la sardine, c'est jusqu'au 7 mai sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Plus d'informations sur pays-saint-gilles-tourisme.fr.
Je me suis dit c'est plus la peine. Je veux pas tout miser sur une vie que j'aurais peut-être à 40 ans. Comme le mec d'Into the Wild avec un meilleur style quand même. Je suis parti sans dire je t'emmène. Me cassez pas les couilles avec vos projets de monde meilleur. Ma liberté je l'obtiendrai qu'à coup de pince monseigneur. Je me sens bien sur ton scoot, je voudrais quand même être ailleurs. J'ai décalé mon pouls du BPM de leur cœur. Ici je trouverai jamais la paix, donc j'ai filé comme une étoile. Je me suis fait la belle, j'ai tout quitté, j'ai mis les voiles. T'as pleuré comme 100 000 affaires, s'il te plaît faut pas m'en vouloir. Pardon si j'ai gâché la fête, je voulais m'échapper du trou noir. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place.
Je sais pas si j'ai tout menti ou d'un fight club, je regardais le monde en night shift. Il était dans l'écran de mon iPhone. J'ai cherché mon talon d'Achille dans des joints de shit et sous des robes. Je m'en vais vivre, désolé si je me dérobe. Comme tous les gens qu'on taffe, je me sens différent des gens qu'on taffe. Je me casse avant de ne sourire qu'en photomontage. Te crois pas libre parce qu'il y a assez de place pour courir dans ta cage. Devenir riche, m'en fous royal, mais c'est pas dans les livres.
Ici je trouverai jamais la paix, donc j'ai filé comme une étoile. Je me suis fait la belle, j'ai tout quitté, j'ai mis les voiles. T'as pleuré comme 100 000 affaires, s'il te plaît faut pas m'en vouloir. Pardon si j'ai gâché la fête, je voulais m'échapper du trou noir. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place. Pas à ma place, ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place.
Dans ta soirée, pas à ma place. Dans la musique, pas à ma place. À Paris, pas à ma place. J'essaie juste de trouver ma place. On a rongé toutes nos attaches. On erre sans but comme chien de la casse. Et même si on fait le tour de l'Atlas, on chantera.
Ici je trouverai jamais la paix, donc j'ai filé comme une étoile. Je me suis fait la belle, j'ai tout quitté, j'ai mis les voiles. T'as pleuré comme 100 000 affaires, s'il te plaît faut pas m'en vouloir. Pardon si j'ai gâché la fête, je voulais m'échapper du trou noir. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place.
Vous êtes bien sur NoFM, le syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf vous invite à en apprendre un petit peu plus sur la biodiversité locale. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Signoret, éleveur à Notre-Dame-de-Mont, grand défenseur de la biodiversité, je le rappelle. On parle du roseau, des roseaux. Totem du marais, nous dites-vous, mais que la gestion moderne du marais aussi met en danger. On en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce qu'on peut repréciser comment l'évolution effectivement de cette gestion peut poser question?
Oui, à la rapidité d'évacuation de l'eau, qui est un des problèmes principaux, le fait que on ne tolère plus l'inondation du marais tard dans la saison. Ça, c'est un problème parce que c'est ce qui plaît aux roseaux. Et également les périodes d'assec qui sont nécessaires pour son développement et notamment son bouturage, le fait qu'il développe des stolons nouveaux pour se développer. Voilà, après, il y a des choses sur lesquelles on peut difficilement agir. C'est-à-dire que les écrevisses et les ragondins, les ramusqués, effectivement, c'est un adversaire compliqué. Mais on a beau déployer des moyens considérables, on n'arrive pas à les exterminer. Donc, il faut essayer de faire avec et voir ce sur quoi on peut agir. Il y a notamment le pâturage des troupeaux répété au printemps, je disais, qui est délétère pour le roseau. Et ça, on peut y faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut poser des clôtures pour protéger les roseaux en période sensible. c'est-à-dire pendant toute la période du printemps jusqu'à l'été. Éventuellement, lorsque les roselières sont en pleine forme, les faire pâturer, pourquoi pas. Et encore, il faudra mesurer l'impact, si cette pratique-là n'est pas trop agressive pour le maintien des roseaux.
Et c'est un message qui est partagé avec les éleveurs environnants.
Oui, et le syndicat des Marais, il y a plus de 10 ans, avait pris conscience, enfin je pense que tout le monde constate à peu près ces choses-là, mais était allé jusqu'à poser des clôtures. Et malheureusement, le bilan semblait plutôt un échec parce que les berges continuaient de s'éroder et les clôtures sont tombées dans les étiers. Donc c'était pas très beau. On était tous un peu avec ce sentiment d'échec. Et en fait, j'ai remarqué, moi j'ai fait partie des agriculteurs volontaires auprès du syndicat des Marais pour les mettre en œuvre sur ma ferme. Et j'ai remarqué, alors que j'étais comme tous les autres, hein, dire c'est un échec, et bien en fait j'en ai laissé un petit bout, et au bout de 10 ans, j'ai vu des boutures de roseaux apparaître dans ces zones-là. Donc j'ai partagé ça avec les présidents de syndicats de Marais, et puis le syndicat mixte de la baie de Bourneuf, etc., pour essayer de partager le constat. Et en fait, ça fait sans doute partie de nos limites hommes modernes, c'est qu'on n'a pas la patience d'expérimenter très longtemps, quoi. En gros, quand on fait un truc, faut que 2 ans après ça marche, sinon on boude. Et ben voilà, des fois les fonctionnements des écosystèmes sont... demande plus de patience que ça, quoi.
Donc il y a des solutions, il y a d'autres solutions aussi qu'on peut partager.
Alors on fait des expériences actuellement, on n'est pas les seuls d'ailleurs, mais on fait du bouturage de roseaux. La communauté de communes Océan Marais de Mont en a développé aussi au Perrier. Les syndicats de marais font aussi des choses en refaisant de pentes douces pour favoriser l'implantation des roseaux. Donc il faut multiplier les expériences, faire des retours d'expérience, les partager, et puis se dire que ce sera peut-être plus long que ce qu'on avait prévu, mais que si on s'en donne les moyens, et on en a des moyens, puisqu'il y a notamment tous les contrats milieu aquatique, toutes les mesures agro-environnementales, et si on est d'accord pour cet objectif de défendre le roseau comme objet patrimonial, comme totem commun, et on peut y arriver, je pense, oui.
Un mot quand même sur quelques bonnes pratiques. En préparant l'émission, vous avez évoqué la mécanisation. C'est l'humain qui va apporter des solutions ?
Ben, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que les formes d'harmonie entre les hommes et le vivant se sont développées à des moments où la population rurale était bien supérieure à celle qu'elle est aujourd'hui. Et en fait, de mon point de vue, c'est parce que les pratiques d'alors étaient des pratiques artisanales. Et on les a industrialisées à cause de la perte de la main-d'œuvre, ou d'ailleurs on a fait fuir la main-d'œuvre pour pouvoir industrialiser la France, ça marche dans les deux sens. Et la conséquence de ça, c'est que on a des pratiques beaucoup plus agressives sur la biodiversité. Ce que je disais, c'est que en évaluant grosso modo par rapport à la taille des fermes du Marais breton, au 19e, il devait y avoir une personne pour 5 vaches. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'avoir une personne qui s'occupe de plus de 100 vaches. Donc du coup, on peut pas utiliser les mêmes méthodes. Et là où il y avait une surveillance rapprochée, où probablement on faisait attention que les vaches ne mangent pas les roseaux parce qu'on en avait besoin pour la toiture, pour la litière ou pour l'alimentation d'automne et d'autres usages que je ne connais pas, que j'ai oublié, pour faire des affûts, pour faire des maisons, etc. Voilà, on voit bien que quand on gère un troupeau de 100, 200, 300 vaches, ben on peut pas y aller avec les mêmes la même délicatesse que on le faisait avec 5 animaux. Et une des conséquences de ça, c'est par exemple le fait qu'on fait des grands fossés à la pelleteuse tout le tour de nos troupeaux, vu qu'on a très peu de temps de surveillance disponible pour nos animaux. Et ça, c'est très défavorable aux roseaux. Parce que quand on fait des fossés très profonds tout le tour des parcelles où on met les animaux, ça veut dire que l'eau va rester pendant toute l'année. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est quand l'eau est pérenne, les roseaux sont trop agressés, à la fois par les vaches, mais aussi par d'autres animaux qui vivent dans l'eau. Et du coup, ils disparaissent.
Ce sera un petit peu le mot de la fin de cette partie d'émission. Alors, vous savez que je termine toujours par une question, voire deux maintenant, hein, en 2022. Je vous l'ai déjà posé il y a quelques mois maintenant.
Je m'en souviens plus, donc c'est pas grave.
Vous en souvenez plus? Ouais, on va réécouter. Mais la biodiversité, c'est le thème de l'émission. Vous êtes un ardent défenseur de la nature, de la biodiversité. Pourquoi c'est si important, selon vous, de défendre? Ça y est, vous vous souvenez? Vous vous souvenez ce que vous aviez répondu la dernière fois?
Ouais, bah, j'ai peur que je répète un peu la même chose. C'est que, en fait, moi, je me sens un être vivant parmi les autres êtres vivants, et pas les hommes évidemment et les femmes, mais aussi tous les autres. Et du coup, je trouve que la vie a beaucoup moins de saveur, plus les animaux et les plantes disparaissent autour de moi, plus je m'ennuie en fait.
Toujours une belle réponse. Alors ma nouvelle question, vous la connaissez peut-être pas encore. Nous, on est des profanes, les auditeurs, là, dont moi. Hein. Vous êtes un spécialiste. Quel petit geste on peut faire à partir d'aujourd'hui pour défendre la biodiversité? Le premier pas, là.
Manger bio et local. Voilà. Aller à la Biocoop.
Et manger des bonnes vaches maraîchines bio et locales aussi. Hein.
Exactement, qu'on trouve dans les boucheries des Biocoop.
Ben voilà, c'est un geste très simple, manger bio et local. Merci beaucoup Frédéric Signoret. On va vous retrouver en podcast et on retrouve le mois prochain une nouvelle émission. C'est tous les mois, les premiers samedis du mois, la biodiversité samedi.